les parts actualités. Oui, bonjour à toutes et à tous. Clotilde Saye en votre compagnie ce matin, en ce 19 avril, sur les ondes de Canal M pour vous présenter les paractualités. Les titres du jour, des parents d'enfants dysphasiques dénoncent un manque de ressources. Recours collectif contre la STM, nous en parlions avec Linda Gauthier la semaine dernière du RAPLIC, c'est le début des procédures. Une entrevue avec Emmanuel Rodrigue, directeur général de l'association pour l'intégration région Beauce-Sartigan. On parle d'enfants frères et sœurs vivant avec un TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Cafouillage au 6 de la Montérégie Ouest et puis une nouveauté au demi-marathon de Sherbrooke, le Cartus. Je vais vous raconter ce que c'est. L'organisme, aujourd'hui, je voudrais accueillir de l'organisme Québec Accessible les transports mésadaptés, d'ailleurs, devrait-on dire, Marie-Ève Veilleux, au sujet du manque d'accessibilité de Via Rail. Et puis aussi, par actualité culturelle, avec Saisir les couleurs par le toucher pour les non-voyants ou les malvoyants. Et à l'international, en Suisse, il y a un fauteuil roulant qui monte les escaliers, qui est en construction. Il est même déjà en prototype. Alors, l'actualité du jour avec ces parents qui dénoncent le manque cruel de ressources pour aider leurs enfants qui souffrent de dysplasie, ce trouble du langage qui entraîne des limitations sur le plan de l'expression orale et de la compréhension, toucherait plus de 70 000 jeunes au Québec. Ce sont des enfants extrêmement intelligents, mais ils ont besoin, nous avons besoin plutôt d'orthophonie. En entrevue au Québec Matin, la responsable du site parlonsdysphasie.com, Pascal Durocher a confirmé ce manque flagrant de ressources. Si on compare à l'autisme, par exemple, c'est 6 fois plus fréquent. On parle de la complexité de la situation. Ça fait 30 ans qu'on a commencé à parler de la dysphasie, mais la situation a peu changé, affirme-t-elle. Et la situation ne s'améliore pas avec le temps, selon François Gosselin, un jeune homme de 25 ans, atteint lui aussi de dysphasie. Le ministre de l'Éducation du Québec n'a pas voulu réagir à ce reportage, mais il a cependant précisé que l'ajout de 1 500 ressources supplémentaires dans le réseau avait été annoncé dans le dernier budget. La coalition Avenir Québec, la CAQ, presse le gouvernement d'agir à ce sujet. Il faut prendre conscience de la gravité de la situation. La dysphasie n'est pas considérée comme un problème de santé, a fait savoir le porte-parole de la CAQ en matière d'éducation, Jean-François Roberge. Nous manquons de ressources dans le réseau de l'éducation. Pardon, les jeunes dysphasiques et les adultes sont coincés. Ils n'ont pas de service. Nous en parlions la semaine dernière avec Linda Gauthier du RAPLIC. Les audiences pour l'autorisation du recours collectif contre la STM, l'AMT et la Ville de Montréal s'ouvrent mercredi, donc aujourd'hui, au Palais de justice de Montréal. Le RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, déposait cette demande de recours collectif contre la Société de transport de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de Montréal, afin d'obtenir un dédommagement pour les personnes handicapés n'ayant pas un accès adéquat au réseau de transport en commun. On ne reçoit pas le même service que tout le monde, explique Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, en soulignant que ceci reflète une discrimination basée sur le handicap. Alors, débutant aujourd'hui mercredi, les audiences viseront à désigner Mme Gauthier et le RAPLIC comme demandeurs principaux représentant tous les membres. C'est plus d'une cinquantaine de personnes se déplaçant en fauteuil roulant qui sont attendues à la salle d'audience pour appuyer la démarche. La semaine dernière, le RAPLIC annonçait sa déception face à la décision de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de fermer un dossier de plainte visant à démontrer que la STM agit de manière discriminatoire envers la clientèle à mobilité réduite. Afin de continuer de faire valoir les droits de ses membres, le RAPLIC déposera une demande de révision judiciaire dans les prochains jours. Il est directeur général de l'Association pour l'intégration sociale, donc l'AIS de la région Beauce-Sartigan ou Sartignan, il va me le dire, parce que les deux sont écrites sur ma page de recherche. Emmanuel Rodrigue, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
Mais je vais très bien, et vous-même?
Bien, merci. C'est Sartigan.
C'est Sartigan, il me semblait. Sartignan, il me semblait que ça sonnait pas bien du tout, du tout, du tout à mes oreilles. Vous avez un sujet très, très intéressant. J'avais hâte de pouvoir en parler avec vous. On parle d'ateliers et de camps. Ça, pour l'instant, bon, ça existe. Mais pour les enfants frères et sœurs ayant un TSA, autrement dit un trouble du spectre de l'autisme. C'est la première fois que vous tenez ce genre d'activité pour les frères et sœurs, M. Rodrigue?
C'est la première fois. Ça fait quelques années qu'on tente d'emmener ces ateliers-là. Malheureusement, faute d'inscription, on n'était pas capable de les tenir. Mm-hmm. Par contre, dans les derniers mois, on a eu beaucoup de demandes de partenaires CLSC, CRDI, en disant hey, « on a ce besoin-là » et on a identifié des jeunes que ça toucherait particulièrement. On les a approchés et maintenant, on peut affirmer que le groupe va avoir lieu, le groupe sera en santé et on tiendra ces ateliers-là pour la première fois, oui.
Alors, vous aviez déjà entendu parler de ce type d'atelier ailleurs? C'est une idée qui vous est venue comme ça?
En fait, c'est une idée qui nous est venue un peu comme ça et en faisant les recherches, on s'est rendu compte que ça se faisait ailleurs au Québec.
Ah oui.
En Montérégie qui offre ces ateliers-là, eux le font sur une semaine pendant la semaine de relâche. Mm-hmm. On est allé les rencontrer, voir le matériel qu'ils utilisaient. Ils ont développé cette expertise-là. On s'est dit, on va créer un partenariat, question mm-hmm. qu'on développe nous-mêmes cette expertise-là. On a pris des choses, on en a laissé de côté, on a inventé les nôtres, mais on s'est parlé beaucoup, on s'est rencontrés pour mettre ça en place.
Mais ce qui est fantastique, je pense, dans cette idée-là, M. Rodrigue, c'est que ces frères et sœurs-là, le fait d'être ensemble, ça doit être beaucoup plus sécurisant pour eux, beaucoup plus... Hein?
Absolument. Et, on sait que souvent, la dynamique familiale qui s'installe vient en ce qu'on oublie un peu ces enfants-là. Mais c'est pas de la mauvaise volonté des parents. C'est vraiment une dynamique qui s'installe et à travers ça, ces enfants-là grandissent en regardant leurs frères et leurs sœurs qui agissent un peu différemment, oui, mais avec le regard de leurs amis qui les côtoient. Puis qui, oh, ton frère, ta soeur, qu'est-ce qui se passe? Parce que cet handicap-là, il est invisible pour le commun des mortels. Et l'intimidation que les frères et sœurs qui ont un TSA vivent, ben par la bande, ça vient beaucoup affecter cet enfant-là. Le frère et sœur qui est en crise à la maison, ben ça fait en sorte que le frère et la sœur s'isolent et on oublie un peu les enfants dans ce processus-là. Et c'est un peu ça que nous, on veut aborder avec eux autres en disant, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas de un.
Non, c'est ça.
Et que tu nous dises sciemment que tu détestes ton frère et ta sœur, on te comprend. On va t'emmener à... C'est la situation que tu détestes. Mais c'est pas ton frère et ta sœur. Mais
ça.
On comprend cette situation-là. On comprend
c'est pas l'individu, quoi.
Exactement. Mais on comprend que toi, en tant qu'être humain, là-dedans, tu vis des choses qui sont pas le fun. Et on va avoir de belles collaborations pendant notre camp. Là. On a des Mathieu Baron, vedette de la télé, qui a lui-même un frère handicapé, qui va nous faire une petite présentation par Skype à partir de ce moment. On l'a pas annoncé. C'est une primeur que je vous fais.
Ah, c'est ça! Parce que j'avais ça nulle part. Je disais, mais de quoi me parle-t-il? Okay.
Voilà, c'est un scoop.
OK.
Notre animateur principal qu'on a, nous, appelé, c'est pas un intervenant pour nous, c'est un expert en frères et sœurs. Lui a eu une enfance, il connaît ça, son frère est polyhandicapé, donc c'est ce qu'il en est, et pendant cette fin de semaine-là, ces ateliers-là, ces jeunes-là vont être appelés à parler entre eux, créer des liens et exprimer leur frustration, et nous, on va l'emmener de façon positive à travers tout ça, mais c'est vraiment une fin de semaine qu'on leur vend en leur disant « Viens chez nous prendre un répit de ta famille. »
Oui, 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 oui. Et dites-moi, vous vous en tenez au TSA ou à un moment donné, vous allez ouvrir?
On a eu, à travers, qu'on a présenté ce projet-là, des demandes. De dire, moi, j'ai un enfant trisomique, frère et sœur. On va se concentrer sur le TSA cette année, mais on sera très ouvert l'an prochain aux autres problématiques. Parce que, tu sais, je le disais tantôt, je prends l'exemple de la trisomie versus le TSA, le regard est très différent de la société. On entend l'enfant en crise dans le centre d'achat, on se retourne, il est trisomique, les gens ont un sourire. Il est TSA, ça paraît pas, Le regard, c'est autour de la famille en disant « quel mauvais parent ».
Ah oui. Oui.
C'est ce qui s'installe et c'est pour ça que la dynamique est très différente. Cet handicap-là, il est invisible, mais tout aussi important.
Ah, absolument, absolument. Et je comprends tout à fait la réaction des parents. Ça doit être assez difficile à vivre, effectivement.
Il m'arrive, moi, de travailler. Je travaille tous les jours quand même, mais de travailler auprès de jeunes enfants. Et ils auraient l'âge d'être mes enfants, puis je fais des sorties avec eux. Puis je le vois, le regard des autres, quand l'enfant est en crise. Puis là, il me regarde en pensant que je suis un très mauvais père, sans comprendre que là, un, je suis un intervenant, puis deux, cet enfant-là a besoin d'aide.
Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, qui peut s'inscrire? Hein, M. Rodrigue, Emmanuel?
Les inscriptions sont offertes à, je dirais, toute la population, qu'on soit de Beauce-Artigan ou pas, qu'on soit membre ou pas de notre association. C'est pas important. S'il y a des parents, on a des gens de Québec qui m'ont contacté en disant hey, « on a passé notre territoire, est-ce qu'on peut? » La réponse est oui. Moi, j'ai 12 places disponibles. J'en ai 8 de comblées jusqu'à présent sur les 12. Mm-hmm. Et les 4 autres seront comblées par quiconque a entre 7 et 12 ans qui a un frère ou une sœur qui a un TSA.
Bon. Et ils peuvent aller s'inscrire où?
On peut faire directement par Internet, nous contacter par Facebook à IS Beauce-Artigan. On est très facile à trouver. Mes coordonnées par courriel direction@isrbs.com, téléphone 88-228-5021. On sera là pour répondre aux questions, prendre les inscriptions et rassurer,
voilà, c'est ça. Les sécuriser parce qu'ils en ont toujours besoin et c'est normal.
Absolument, hein? Absolument.
Bon, mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Je vais redonner Emmanuel Rodrigue le nom tout doucement parce que vous avez l'habitude de le dire. Et les gens qui ont l'habitude de le dire, ils le disent toujours un petit peu vite. Alors, direction, comme une direction, @aisrbs.com. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Rodrigue.
Ça fait plaisir.
Et bon été, puis merci pour tout ce que vous faites.
Au plaisir.
Au revoir.
Bonjour.
Cafouillage au 6 de la Montérégie Ouest, écrit Philippe Asselin. Un enfant de 5 ans pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, a subi les contre-coups d'un désordre administratif, le privant de service pendant 9 mois. L'enfant, qui souffre d'importants retards de développement, devait recevoir les services d'un orthophoniste, mais n'a reçu aucun service au Centre intégré de santé et de services sociaux, le 6 de la Montérégie Ouest. Dans sa décision rendue en mars, la juge Mélanie Roy affirme que le garçon n'a pas eu de réponse à ses nombreux besoins pendant plusieurs mois en raison de délais administratifs et du refus de prioriser le dossier. La porte-parole du 6 de la Montérégie Ouest, Jade Saint-Jean, explique ce qui s'est passé de leur côté. Dans ce cas-ci, c'est un manquement dans le processus. Certaines équipes ne connaissaient pas les règles à suivre dans le cas d'une ordonnance, donc elle n'a pas été exécutée. Le dossier a été mis sur une liste d'attente, comme tous les dossiers que l'on reçoit en déficience intellectuelle, TSA et déficience physique. Maître Hélène Robitaille, avocate du jeune enfant, affirme que le 6 de la Montérégie Ouest avait une façon de faire rigide qui ne prenait pas en compte les besoins vraiment urgents de cet enfant, tel que rapporté par La Presse. Pour faire avancer ce dossier, il a fallu que le 6 de la Montérégie Est dépose une mise en demeure contre celui de la Montérégie Ouest. Avec la nouvelle réforme du gouvernement du Québec, les services de protection de l'enfance de la Montérégie sont maintenant rassemblés dans le 6 de l'Est. Par contre, le jeune garçon réside dans le secteur Ouest. Il devait donc recevoir des services dans ce secteur. Le 6 de la Montérégie Est n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Dans lestriplus.com, c'est un site internet, Vincent Lambert nous dit qu'au demi-marathon RBC de Sherbrooke, qui sera l'une des courses les plus courues de cette année, eh bien, il y aura 7 courses différentes entre le 1 et le 21 km et que le pont Jacques-Cartier accueillera tout près de 4000 coureurs le 2 juillet prochain. Mais il y a une nouveauté cette année, et parmi ces nouveautés, en fait, parce qu'il y en a plusieurs, l'une qui retiendra l'attention sera un départ Quartus pour le 5 km. Le principe, permettre à des personnes à mobilité réduite de savourer le demi-marathon. Dans le parcours de 5 km, Quartus regroupera 7 équipes comprenant chacune un coureur et une personnalité à mobilité réduite. L'idée est venue du Sherbrookois d'origine, Marc Thérien. Son but était entre autres de briser l'isolement des personnes à mobilité réduite et de les joindre à l'activité de la course. L'engin ressemble à un fauteuil roulant, mais beaucoup plus confortable. C'est le Cartus, précise René Thérien, ancien professeur d'éducation physique impliqué dans ce projet. Lors du départ, un participant poussera une personne à mobilité réduite dans ce Cartus. Ces personnes à mobilité réduite pourront bénéficier d'une expérience grandiose. C'est une équipe d'étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke qui a conçu et développé l'engin en question. Pendant l'été, les Cartus seront gracieusement offerts aux coureurs et à leurs co-coureurs à mobilité réduite pour se familiariser avec le parcours. Il n'y en aura pas de facile, c'est le moins qu'on puisse dire, et je vais en parler avec Marie-Ève Veilleux, membre des mouvements Québec accessible et transports adaptés, ou plutôt mésadaptés d'ailleurs. Comment est-ce qu'on devrait dire ça? Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Parce que parce que vous avez vécu une drôle d'expérience. Rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé, ça concerne Via Rail et un voyage. Hein?
Oui, c'est ça, c'est à peu près il y a un mois, j'ai publié une photo justement sur le groupe Facebook Transports mésadaptés de moi, qui est dans un train et dans le fond, moi, mon conjoint et son frère, on revenait de chez mes beaux-parents.
Ouais.
Qui habitent à Drummondville, ce qu'on fait chaque deux fins de semaine. Et Via Rail, comme Via Rail a une seule place pour fauteuil roulant, et chacun d'entre nous utilisons un fauteuil roulant et on ne peut pas se transférer, et donc on est obligé de prendre trois trains différents.
Vous n'êtes pas sérieuse, trois trains différents.
Exactement, parce qu'il y a une seule place par train. Et donc, habituellement, mon conjoint et moi, on voyage avec Orléans Express, qui a deux places. Mais cette fin de semaine-là, ils ont juste quatre autobus accessibles. Donc, il n'y en avait pas disponible. Donc, on a été obligé de prendre Via Rail.
Oh, oui. Mais dites donc, et en plus, il avait fallu qu'il y ait déjà la place de prise.
Exactement.
Qu'est-ce qui se serait passé?
Le dimanche, pour revenir en ville, il y a trois passages de train seulement. Et s'il y avait quelqu'un qui avait réservé, à partir de Québec, c'est le train Québec-Montréal, à partir d'un autre endroit, on aurait été obligé de rester à Drummondville. Ouais.
Et c'est fou parce que je lisais entre autres, hein, c'est aux États-Unis par exemple, à la compagnie américaine Amtrak, c'est un train par wagon. Ben, je veux dire un wagon par train, devrais-je dire.
Une place accessible par wagon.
Ah, donc, une place accessible par wagon.
Exactement. Donc, ça multiplie les places accessibles. Et mon conjoint et moi, on a fait un voyage à New York et on était dans le même wagon. Ça posait aucun problème. Et c'est en vigueur depuis les années 90. Aux États-Unis, il y a une loi qui est très détaillée et qui force les compagnies à être accessibles.
Mm-hmm. Oui. Mais dites-moi, si je ne m'abuse, Amtrak, c'est privé, hein, alors que Via Rail, mm-hmm. c'est fédéral, hein, c'est ça?
Même la loi américaine pour les Américains handicapés vise aussi les entreprises privées. Donc, s'ils ne se conforment pas à la loi, ils payent une amende. Versus au Canada, la loi dit seulement que les trains doivent avoir au moins une place accessible. Donc, Via Rail a suivi à la lettre... la loi, et malheureusement, les normes du Canada sont beaucoup moins vont beaucoup moins loin que, mm-hmm. que la réalité. Dans le fond, on a besoin de plus que ça. Là.
J'ai l'impression qu'on attache plus d'importance à de la place pour des valises.
Oui.
Non, mais excusez-moi, Marie-Ève, mais c'est quand même terrible. Et oui. Est-ce que vous avez déjà porté plainte, vous?
Exactement, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à être avec mon conjoint, ça m'a ouvert les yeux sur cette problématique et j'ai tout de suite porté plainte. Du côté de Via Rail, on m'a dit que non, c'était pas dans les plans d'ajouter des... On parle de 2014 environ. C'était pas dans les plans d'ajouter parce que la demande n'était pas là. Puis ensuite, je suis montée à l'Office des transports, puis on m'a répondu que Via Rail, tout était beau et ils suivaient le règlement qui disait au moins une place. Donc, en 2014, il n'y avait pas du tout une intention de changer.
Non.
Et là, avec la sortie que j'ai faite il y a un mois dans les journaux, la réponse de Via Rail, c'était comme au moment opportun, on va considérer plus d'accessibilité, mais...
Quel est le moment opportun? Mais oui, évidemment, exact. Mais je comprends que vous soyez écœuré.
Oui.
Mais là, on se dit, bon, il y a la ministre Carla Qualtrough, quand même, Qualtrough, qui vient d'arriver dans le décor, il y a maintenant quelques mois, mais qui elle-même est une personne handicapée, est-ce que la loi fédérale sur l'accessibilité, comme celle qu'elle projette de réaliser, est-ce que ça pourrait faire accélérer quelque chose? Vous y croyez, vous?
Ça laisse place à beaucoup d'espoir, je dirais.
Oui.
Je crois qu'elle veut se concentrer sur l'emploi dans les dernières communications. J'espère qu'ils vont comprendre que pour avoir un emploi, il faut aussi voyager. Donc, le transport, j'espère que ça va être inclus là-dedans.
Oui.
Donc,
oui.
Évidemment, tous les espoirs sont là. Parce qu'une loi fédérale pour forcer à plus d'accessibilité, c'est toujours une bonne voie.
Mais oui.
Ouais.
Et dites-moi, si le train est complet, si le bus est complet, qu'est-ce qu'il vous reste pour voyager entre Montréal et Drummond, entre autres?
On a des beaux-parents très gentils qui ont une voiture accessible et qui ont fait, qui nous dépannent souvent, là, mais...
Bon, heureusement.
C'est ça.
Oui. Bon, ben écoutez, je suis contente qu'on ait pu en parler. J'entends bien que là, vous avez le sourire, mais il y a un moment donné où vous auriez eu bien raison de faire la grimace et puis de monter au créneau, puis c'est ce que vous avez fait. Vous avez impliqué les médias là-dedans. Eh bien, bravo, Marie-Ève.
Merci.
Mais il faut surtout que ça change maintenant.
Oui, absolument.
Allez, passez une belle fin de journée. À bientôt.
Bonne journée.
Salut. Par actualité culturelle, saisir les couleurs par le toucher pour les malvoyants. C'est dans la presse et c'est Éric Clément qui écrit que l'universitaire montréalaise Patricia Birubé est en train de concevoir un prototype pour permettre aux aveugles et malvoyants de percevoir les couleurs d'une peinture par le toucher. Le Musée des beaux-arts de Montréal, le MBAM, s'intéresse à cette recherche qui devrait aboutir à la création d'un premier modèle d'ici 2 ans. Je me suis demandé comment on pourrait faire pour que tout le monde puisse avoir accès aux couleurs d'une œuvre d'art, dit Patricia Birubé. L'idée était de trouver un moyen de traduire les différentes couleurs par le toucher pour des œuvres données. La Suède est un pays où ces questions sont très développées, et ce depuis longtemps. Aussi, Patricia Birubé partira, après sa maîtrise, faire un doctorat à Stockholm. Pour la création de son prototype, Patricia Birubé devait choisir une œuvre et en obtenir les droits d'auteur afin de pouvoir l'utiliser. Elle a opté pour bannière de l'exposition « Prisme Dieu » d'Alfred Pellan, une huile sur toile de 1948, acquise en 2003 par le MBAM. Patricia Birubé explique que les motifs géométriques de cette peinture simplifient la définition du prototype tactile qui sera imprimé en 3 dimensions. La chercheuse pense pouvoir créer une première version d'ici 2 ans. Le prototype sera 2 fois moins grand que le tableau pour que les aveugles puissent le saisir des 2 mains afin de bien en lire tout le contenu, dit Madame Birubé. Les motifs et les couleurs seront préalablement définis par association. Par exemple, les rouges seront des ronds et les bleus des triangles. Une charte des couleurs existe déjà, mais c'est déjà assez limitatif. Je veux essayer de simplifier. Les textures seront définies par la chercheuse en collaboration avec des personnes connaissant la réalité des déficients visuels. J'ai hâte de voir quelle sera la réception du prototype, et pas seulement de leur part, de dire Madame Birubé. Je crois que ce projet va intéresser beaucoup plus de gens que la population concernée. C'est quelque chose d'innovateur qui n'existe pas ailleurs que je sache, car je m'intéresse particulièrement à la notion de couleur. Sachez que ma camarade Maxime Despomerleau aura certainement et très prochainement la chance de pouvoir s'entretenir avec Patricia Birubé dans le cadre de son émission « Sortir ». Par actualité internationale, bientôt un fauteuil roulant qui monte les escaliers. Figurez-vous qu'il existe en Suisse le projet CEWO, mené par des étudiants suisses qui est à, donc, ces gens-là sont à l'origine d'un appareil électrique capable de monter et de descendre des escaliers. C'est un article paru dans Le Point. C'est le fauteuil roulant du 21e siècle, explique le site internet Numérama. Le CEWO, un fauteuil roulant tout-terrain, est le premier fauteuil roulant capable de monter ou de descendre des escaliers, et il pourrait être une révolution pour des personnes à mobilité réduite. Parmi les possibilités offertes par ce fauteuil nouvelle génération, l'avantage d'être assez petit pour pouvoir passer par toutes les portes et assez maniable pour pouvoir franchir un grand nombre d'obstacles, dont des escaliers. Grâce à ces 3 systèmes de traction, le fauteuil permet de monter et descendre des marches tout en douceur grâce à une simple pression sur un bouton spécial. Le projet a donc été imaginé par un petit groupe d'étudiants interdisciplinaires de l'École polytechnique fédérale de Zurich, l'ETH, mais aussi de la Haute École d'art de Zurich. Le modèle CEWO n'en est pour l'instant qu'au stade de prototype, mais c'est déjà la seconde version du fauteuil qui est proposée par les étudiants. Si tout va bien, une version fonctionnelle sera bientôt proposée et la commercialisation du fauteuil pourrait se faire dès décembre 2018 si le planning est respecté. Alors, c'était un avis, je dis c'était parce que pour ce matin, c'est un avis de convocation, mais vous pouvez peut-être encore vous rabattre sur cet après-midi ainsi que demain, un avis de convocation au Palais de Justice, de Montréal, salle 17.09, en vue de l'autorisation du recours collectif contre la STM, l'AMT et la Ville de Montréal. Une cinquantaine de personnes en situation de handicap et se déplaçant à l'aide de fauteuils roulants ainsi que de nombreux supporters seront présents pour signifier leur appui au Rapplic. Pour le Rapplic et ses collaborateurs, les trois intimés ont commis et continuent de commettre de la discrimination quant aux services qu'elle leur offre. Madame Linda Gauthier, présidente et personne désignée du Rapplic, invite les gens des médias à couvrir l'événement qui sera loin de passer inaperçu, ce que nous venons de faire immédiatement à l'émission Les Paractualités sur Canal M. Et puis, également du sport pour faire bouger les jeunes semi- et non-voyants de Québec et de Lévis. L'Association sportive des aveugles du Québec, l'ASAC, lancera son programme « Du sport pour moi » à Québec et à Lévis pour le printemps 2017. Le programme proposera des sports variés aux jeunes semi-voyants et non-voyants de 6 à 14 ans de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Les jeunes pourront s'initier aux habiletés de base du sport, à la course à pied, au yoga et au kayak. Bien que le programme soit la clé de voûte d'un mode de vie actif, il joue aussi un grand rôle dans le développement des habiletés physiques et sociales de l'enfant. Du sport pour moi propose des sports adaptés, oui, mais aussi un espace de socialisation avec des jeunes vivant avec la même déficience. Cet aspect est crucial car il peut être difficile de s'intégrer dans un cursus sportif typique lorsqu'on a une déficience visuelle, explique Nathalie Chartrand, instigatrice du programme et directrice générale de l'ASAC. Alors, les gens intéressés à inscrire leur enfant au programme du sport pour moi peuvent le faire dès maintenant via le site web de l'ASAC, autrement dit la SAQ. Et puis, comme chaque année, l'équipe de la CEPS est heureuse de vous convier à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 22 avril de 12h à 16h ou au centre communautaire du Centre Sud situé au 2093 de la Visitation au métro Baudry, à la salle polyvalente au deuxième étage. Voilà, c'était les Paractualités animées par Clotilde Sey. Demain, retrouvez François Brodeur. Merci à toute l'équipe et bonne fin de journée.